Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. NCS, LSTW et Virage. Au programme, les travailleurs agricoles mexicains au Québec, un intrant jetable, créer des espaces sécuritaires et hébergement insolite, dormir là-haut ou sur l'eau. Bonne écoute!
Les travailleurs agricoles mexicains au Québec, un intrant jetable. Un texte de Eliana Cardenas Mendes paru le 8 avril 2022 dans la revue Nouveau cahier du socialisme. Le Mexique est entré dans le programme des travailleurs agricoles saisonniers, PTAS, en 1974 avec la signature d'un accord bilatéral établissant un protocole d'entente entre les gouvernements du Canada et du Mexique. Il visait à fournir des travailleurs pour les travaux agricoles de 9 provinces canadiennes. D'année en année, le nombre de travailleurs saisonniers mexicains au Canada a augmenté pour atteindre 18 499 en 2013, soit un total de 261 301 travailleurs entre 1974 et 2013. Un programme fait sur mesure. En 1987, le PTAS a été privatisé et le programme a dès lors été géré par des entités privées comme la Fondation des entreprises en recrutement de main-d'œuvre agricole étrangère, FERM. Par l'intermédiaire de ces organisations, les entrepreneurs agricoles canadiens soumettent des demandes pour répondre à leurs besoins en main-d'œuvre. Au Mexique, par contre, la gestion du programme est confiée au ministère du Travail et de la Protection sociale, qui assure la diffusion du programme de mobilité de la main-d'œuvre, le recrutement du personnel et la répartition subséquente des travailleurs dans les fermes canadiennes, de même que les procédures, demande de passeport, vérification des examens médicaux, demande de visa, procédure de billetterie et enregistrement des demandes d'emploi auprès des associations d'employeurs. En retour, les employeurs canadiens s'engagent à fournir aux travailleurs des logements qui répondent aux exigences minimales d'habitation et à équiper la maison d'appareils électroménagers ainsi qu'à fournir de la nourriture. Cependant, le coût du logement et de la nourriture est facturé aux migrants. Le contrat couvre les frais de transport aérien, de sécurité sociale et d'assurance vie pendant la durée du contrat. Ceux qui adhèrent au programme restent de 6 semaines à 8 mois au Canada sans possibilité de prolonger leur séjour. Ils n'ont pas le droit de demander un changement de formulaire d'immigration en vue de la permanence, ni le droit au regroupement familial. Les travailleurs ne peuvent demander l'asile politique ni le statut de réfugié. Qui en profite? 50 ans après la mise en place du modèle PTAS, les asymétries dans le programme sont évidentes. Le Canada est devenu l'un des pays agro-exportateurs les plus importants au monde grâce à l'exploitation de la main-d'œuvre mexicaine. Sans cadre juridique pour la protection des travailleurs, les migrantes et les migrants se retrouvent dans une situation vulnérable. Cette situation exprime le rapport inégal entre les besoins de la main-d'œuvre du Sud par rapport aux besoins de l'économie du Nord. Les pays du Sud restent des pourvoyeurs de main-d'œuvre dont dépend une partie très importante du PIB de ces pays, sans qu'ils puissent négocier des contrats réglementés qui seraient appropriés entre deux États souverains pour la protection juridique des travailleurs migrants. Reflet des inégalités inhérentes à la division internationale du travail et à l'hégémonie des pays du Nord, les travailleuses et les travailleurs sont à la merci d'embauches irrégulières, de salaires précaires, d'horaires de travail pénibles. ils sont sans aucune sécurité sociale et exposés à des mesures disciplinaires dictées par des règles qui les attirent, les repoussent ou les expulsent selon la convenance des employeurs. Pour le reste, il est clair que ces dynamiques migratoires et les conditions de travail des travailleurs, loin d'être des conditions d'indépendance ou d'autonomie pour les pays d'origine comme pour les travailleurs, renforcent les relations de dépendance nationale et régionale déterminées par le contexte d'attraction pour des emplois et par l'hégémonie des pays du Nord. La gestion des flux. La conditionnalité du retour constitue la caractéristique principale de la migration circulaire. Elle vise à gérer les flux, à faciliter l'exploitation de la main-d'œuvre et à sauvegarder la compétitivité de l'employeur. Ainsi, la migration circulaire empêche l'installation du travailleur et assure son retour à son pays d'origine car, comme on l'a indiqué, la résidence, la nationalité, l'asile politique et le regroupement familial sont interdits. En même temps, en raison de la nature temporaire du séjour pour des emplois spécifiques, le travailleur, qui n'est sur le territoire canadien que pour des saisons limitées et principalement à l'intérieur des fermes, vit des conditions et un isolement qui empêchent tout type d'intégration à la société d'accueil. Ce processus ne vient pas du ciel. L'augmentation des flux de migrantes et de migrants est la conséquence de la libéralisation des marchés, de l'intégration des économies nationales aux marchés internationaux, des processus de privatisation de l'économie, ainsi que de la dislocation des appareils politiques mandatés pour la protection sociale. La dérégulation de l'économie fait de l'emploi un bien rare et exacerbe les différences et les inégalités entre les pays, les marchés et les individus. Elle génère une offre excédentaire de travailleuses et de travailleurs du Sud. La migration circulaire comme modèle. La migration circulaire devient, dans ce contexte, un modèle de mobilité idéal dans la mesure où elle permet l'entrée légale des travailleurs et des travailleuses, mais avec des restrictions à la libre circulation et pendant des périodes strictement déterminées. En même temps, elle remplit l'objectif de fournir de la main-d'œuvre internationale aux entreprises et de favoriser leur compétitivité et leur rentabilité. Ce qui distingue la circularité au XXIe siècle, c'est la tendance à la répétition de la formule « partir et revenir ». Dans ce type d'accord, la force de travail constitue un intrant de production, sans autre droit que celui de la reproduction de la force de travail elle-même. Dans cette mobilité, il y a un contrôle strict du temps et de la mobilité du travailleur ou de la travailleuse, ce qui l'empêche de s'enraciner ou d'être librement employé. Pour cette raison, le nouvel ordre social ne se soucie pas de l'intégration de l'immigré. Ainsi, la travailleuse ou le travailleur international mobile devient un intrant jetable. Les termes qui changent au détriment des travailleurs. Cette absence de statut dans les législations s'accompagne d'une sorte de vulnérabilité garantie. Le travailleur est inclus dans un processus de production, mais reste sans droit, tant sur le plan migratoire que sur le plan du travail. Cette situation favorise la violation des droits sociaux des migrantes et migrants circulaires. Ces derniers demeurent en dehors des paramètres légaux, leurs droits sont strictement ciblés et partiels, contrairement aux personnes natives et à celles immigrées permanentes. Une enquête réalisée auprès des travailleurs originaires de la communauté de Roviroza démontre que les conditions du PTAS se sont détériorées. À l'origine, le programme accordait aux travailleurs sélectionnés selon une nouvelle modalité une aide de 3 000 $ pour couvrir les frais d'examen dans les cliniques officielles du secteur de la santé à Mexico afin de garantir l'état de santé des candidats. Récemment, cet avantage a été abrogé. Actuellement, les travailleurs couvrent les coûts des procédures telles que le passeport et le permis de travail pour lesquels le gouvernement mexicain accorde une réduction. Le travailleur paie le loyer, la nourriture, ce qui représente en moyenne 30 $ par semaine. En Ontario, où la majorité des travailleurs mexicains se trouvent, le salaire minimum est de 14,25 $ canadiens l'heure. Les horaires sont variables selon les cycles de la production, ce qui fait de très longues heures au moment des récoltes. Conclusion. Contrairement à un certain discours lénifiant qui célèbre la migration comme un moyen de réduire la pauvreté, la migration en général et la migration circulaire en particulier surexploitent la main-d'œuvre et représentent une perte de capital humain pour les communautés locales tout en assurant une armée de réserves disponibles pour la production dans des pays du Nord comme le Canada. C'était « Les travailleurs agricoles mexicains au Québec, un intrant jetable », un texte de Eliana Cardenas Mendes paru le 8 avril 2022 dans la revue Nouveau Cahier du socialisme.
Créer des espaces sécuritaires. Un texte présenté par Lightspeed, paru le 24 mars 2023 dans le magazine LSTW. Je crois que c'est comme ça que se forme la communauté, en ayant des espaces pour que les gens se rassemblent, des espaces pour célébrer, des espaces pour faire des activités ensemble, et en ayant toutes ces choses qui étaient difficiles à trouver pendant la pandémie. Je pense que c'est ça qui manque vraiment aux gens. Comment une musicienne devenue restauratrice façonne les communautés? De rockeuse électropunk à restauratrice, Bernie Hood laisse indéniablement sa marque dans tous les projets créatifs qu'elle entreprend. En tant que chef d'entreprise queer, elle a toujours eu à cœur de faire rayonner et de renforcer sa communauté, canalisant sa créativité à travers la musique et la gastronomie et cherchant toujours des moyens de rassembler et d'inspirer les autres. Avec à son actif des restaurants comme le Cajibi, dépanneur Le Pick-up, Alexandra Platz et maintenant Restobar Le Pick-up, cet entrepreneur chevronné est une force motrice dans la création de sphères uniques dans le milieu de la restauration à Montréal. Une hospitalité transmise de génération en génération. On peut dire qu'elle a ça dans le sang. Avec une histoire familiale intrinsèquement liée à l'hospitalité, et des années de travail dans des restaurants tout en poursuivant sa carrière musicale, Bernie a toujours été attiré par la création d'espaces axés sur la gastronomie et les connexions. Mes parents possédaient un restaurant quand j'étais enfant. J'ai donc toujours senti que j'avais des affinités avec ce milieu. Je m'intéresse également beaucoup aux possibilités générées par les espaces dédiés pour la communauté. C'est quelque chose que je pense avoir apporté à travers mon band et mes projets en restauration aussi, explique-t-elle. Créer des espaces sûrs pour les personnes queer grâce à la musique et au restaurant. Partager un repas, prendre un verre, aller voir un spectacle, danser sa vie sur le dance floor, les bars et les restaurants sont depuis longtemps des endroits qui donnent vie aux villes et aux communautés. Depuis ses premières années de tournée avec Lesbians en Ecstasy jusqu'à sa récente aventure entrepreneuriale, le Restobar Le Pick-up, la passion de créer des lieux de rencontre invitants et sûrs est le fil conducteur de tous les projets de Bernie. On aime créer des espaces qui sont vraiment accueillants pour un groupe de personnes diversifiées, déclare-t-elle. Pour créer des espaces attirants, il ne suffit pas d'installer des tables et des chaises. Pour l'entrepreneur, il s'agit avant tout des gens et du sentiment d'être représentés. On a fait un gros effort pour être vraiment inclusif dans notre processus d'embauche. Lorsque les gens viennent dans ces endroits, ils se voient à travers les personnes qui y travaillent, ce qui leur donne un sentiment d'intégration et non de performance, ajoute-t-elle. Suivre l'évolution rapide du secteur. Alors que les restaurants sont confrontés à une myriade d'obstacles allant de la pénurie de main-d'œuvre à l'inflation, le plus grand défi de Bernie est lié à l'une de ses forces, comprendre les besoins des gens. La chose qui a peut-être été la plus difficile au cours des deux dernières années est d'essayer de comprendre ce que les gens veulent maintenant. Avant, c'était vraiment évident. J'avais l'impression de comprendre les variations d'achalandage selon les périodes de l'année et de la semaine. Mais depuis la pandémie, les habitudes de tout le monde ont changé du tout au tout, explique-t-elle. Pour vraiment comprendre l'évolution des habitudes des clients du resto-bar Le Pick-up, la restauratrice s'est tournée vers un nouvel allié, les données. Toutes les habitudes super prévisibles sont tout simplement différentes maintenant. On doit définitivement se baser davantage sur les données. On a dû prêter une attention particulière à ce qui se passe réellement et à un niveau plus granulaire, ajoute-t-elle. Grâce à Lightspeed, l'équipe de Bernie a une vision complètement différente de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. On peut regarder nos ventes pour chaque heure et voir quand on a des creux. C'est intéressant d'avoir accès à cette information-là parce qu'il est parfois utile de se remettre en question et de réaliser « Oh, je suis dans le champ, je me suis trompé », déclare-t-elle. Soutenir les communautés lorsqu'elles en ont le plus besoin. Dans un monde qui a connu son lot d'isolement ces dernières années, l'ouverture d'espaces axés sur la communauté est plus importante que jamais. Les restaurants comme ceux que Bernie a ouverts ont un impact qui va bien au-delà de la nourriture. Ils jouent un rôle clé dans le renforcement et l'expansion des communautés actuelles qui ont été affaiblies par les fermetures et les séparations, tout en construisant de nouvelles et en établissant des racines. C'était « Créer des espaces sécuritaires », un texte présenté par Lightspeed paru le 24 mars 2023 dans le magazine LSTW.
Hébergement insolite, dormir là-haut ou sur l'eau. Un texte de Marie-Ève Blanchard, paru le 25 mai 2023 dans le magazine Virage. Ils pullulent et se réinventent depuis une dizaine d'années. C'est qu'ils ont la côte, ces hébergements perchés, flottants ou encore à la structure inusitée. Que ce soit pour dormir là-haut, ou encore pour se laisser bercer par les flots, voici les hébergements insolites qui se démarquent pour une escapade sans pareil dans différentes régions du Québec. Les perchoirs du Cirque, Saint-Germain-de-Kamouraska, Bas-Saint-Laurent. Ces hébergements suspendus ou accrochés à même une paroi rocheuse sont vraiment magnifiques. Hautement créatifs, ils évoquent un œil, ou encore un nid. Il propose un doux séjour minimaliste entre fleuves et montagnes avec des vues à couper le souffle grâce à leur vaste fenestration. Parfait pour les amoureux de plein air. Pratico-pratique, certains perchoirs sont plus difficiles d'accès que d'autres. Pensez à bien vous chausser. Ils n'ont ni douche, ni eau courante, mais il y a de l'eau potable et une toilette sèche sur place, pour deux personnes. Page web lesperchoirsducirque.com. Les UHU, les éboulements charlevoix. Impossible de demeurer indifférent devant ces mini-chalets hautement perchés, au design soigné et épuré. Pour s'y rendre, on doit monter une trentaine de marches et traverser une passerelle de 8 mètres afin d'accéder à une superbe cabane en forme de A revisitée. On s'y détend simplement en admirant le spectacle naturel qui se joue en matinée autant qu'en soirée sur le fleuve et en observant les étoiles une fois la nuit venue grâce aux larges fenêtres. le tout au-dessus des arbres. Pratico-pratique. Les UHU accueillent 2 personnes pour un minimum de 2 nuitées. Repère boréal dispose aussi d'une zone spa et d'autres prêts à camper design ou écolo qui valent le détour. Page web repèreboréal.com. Chalet perché du parc côtier Kiskotuk-Kakuna, Bas-Saint-Laurent. 2 mini-chalets perchés, dont l'architecture évoque des caches de chasseurs, permettent d'apprécier l'environnement singulier et paisible du parc Kiskotuk, composé de marais, d'îlots forestiers et de champs cultivés. On aime leur large fenestration, mais aussi l'originale terrasse d'observation sur le toit pour contempler le paysage côtier et la vue sur l'île verte. Parfait pour y observer le canard noir, oiseau emblématique du parc, ou le coucher de soleil sur le fleuve. Pratico-pratique. Les chalets sont équipés. Il suffit d'apporter sa nourriture. Des toilettes sèches se trouvent à proximité et des douches au pavillon d'accueil. Page web parckiskotuk.com. Là-haut, cabine, Racine, canton de l'Est. Vous allez craquer pour ce site au cœur de la nature, au nord du mont Hufford, et ses superbes mini-chalets au stylisme sobre. Alimentés au gaz et à l'énergie solaire, ils sont montés sur pilotis, nichés au cœur de la forêt ou encore perchés. On affectionne particulièrement ces derniers, qui sont dotés d'une vaste fenestration qui permet d'observer les étoiles directement depuis son lit. Pratico-pratique. Des chariots sur roues permettent d'effectuer le transport de bagages. Il y a également un service de transport frais. Kayaks et planches à pagaie sont disponibles gratuitement au lac Apol. Les habitations ont des toilettes sèches, parfois une douche rustique et des bidons d'eau sont fournis. Il y a 2 bains thermaux près du bâtiment d'accueil. Page web lahautcabine.ca. Flotel, Salaberry de Valleyfield, Montérégie. Voilà un concept original qui permet de découvrir davantage l'univers entourant les marinas. Puisqu'il est situé en bordure même de la ville, ne vous étonnez pas d'entendre parfois des bruits de circulation en soirée. Le Flotel propose une expérience sur l'eau urbaine. Les mignonnes petites cabines construites à même d'anciens conteneurs évoquent des cabines de bateau. Une terrasse au niveau de l'eau permet de profiter de l'ambiance sur la baie en observant les flammes du foyer au propane. Sur le toit, où se situent les panneaux photovoltaïques, alimentant les cabines, une terrasse permet d'embrasser la vue sur l'eau et une partie du centre-ville. Pratico-pratique. Il s'agit plutôt d'un hôtel flottant que d'un prêt à camper. Les cabines disposent d'un petit réfrigérateur et d'une cafetière, mais n'ont ni cuisinière, ni micro-ondes, ni couvert. Il faut prévoir des repas froids ou se rendre au restaurant à 2 pas. On peut apporter kayak ou planche à pagaie ou les louer sur place. Page web flotel.ca. Bora Boréal, Sainte-Brigitte-de-Laval, Québec. Au cœur d'un véritable petit paradis naturel, ces 2 maisons flottantes proposent un séjour dans un environnement vraiment intime sur un lac entouré de montagnes. Moderne, confortable et lumineuse, elle dispose d'un espace ouvert avec salon, feu de foyer au bois, cuisinette et coin salle à manger, avec une immense fenêtre de style porte de garage donnant sur l'eau, à ouvrir en été, et une chambre sur mezzanine. Pratico-pratique. Pour maximum 4 personnes, grand lit et divan-lit. Toilette compostable et bidons d'eau potable fournis, mais les douches sont dans un pavillon à l'entrée du site. Page web boraboreal.com. À l'auberge Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Montérégie. Six jolies unités flottantes, amarrées à même un quai, permettent de découvrir un environnement paisible qu'on a parfois tendance à oublier, les berges d'une rivière. C'est un endroit parfait pour se reposer, pour lire tranquillement sur sa terrasse en écoutant les chants des oiseaux et pour s'endormir en se laissant doucement bercer par le doux clapotis de l'eau et en observant le ciel étoilé grâce à un plafond vitré. Et pour pagayer le Richelieu afin de découvrir ses marais habités de grands hérons, castors et tortues. Méconnus et magiques. Pratico-pratique. Plutôt rare dans ce type d'hébergement, il est possible d'apporter son chien. On peut amarrer au quai une petite embarcation ou louer canot, kayak et planche à pagaie. Page web alauberge.com. C'était Hébergements insolites, dormir là-haut ou sur l'eau, un texte de Marie-Ève Blanchard, paru le 25 mai 2023 dans le magazine Virage.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier, André Lebeau et Lynn Lamarche. À la lecture, André Lebeau. À la recherche, Nicolas Wartmann. À la présentation et au montage.